J'avais besoin de libérer quelque chose en moi. Il fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et j'avais l'impression d'être... on me prenait pour un fou parce que je faisais des choses bizarres, quoi. Mais pour moi, c'était normal.
J'étais furax.
Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir.
J'ai pris du déroxate pour la dépression.
La vie est quand même tellement...
J'ai pris du Valium.
Les médicaments donnent une sorte d'équilibre.
Je pense que, sérieusement, que je suis conne.
Apathique, agnosique, aphasique.
Il n'en est pas moins certain que je suis conne.
Les gens disent, mais il est fou, quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé.
On pense, on dort, on sue, on pisse du capitalisme à longueur de temps et de journée.
Une mini-communauté de deux pour l'instant, oui.
Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne, bien sûr.
Bienvenue dans Les Garde-Fous, une émission qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui, en rencontrant des fous ordinaires et extraordinaires, et qui est écoutée aussi par toi, qui peut-être est fou, à ta manière. Pour cet épisode des Garde-Fous, nous avons rencontré Pascal, un comédien aux multiples casquettes qui, un jour, a commencé à confondre sa vie personnelle avec celle du personnage qu'il incarnait au théâtre à ce moment-là. C'est de cette histoire, d'abord confiée au détour d'un café, qu'est née l'envie de réaliser cet épisode, dans lequel nous abordons finalement un tas d'autres sujets. Pascal nous a parlé de ce sentiment d'être différent, d'être à l'écart et d'être rejeté. Il nous raconte ce monde dans lequel il ne trouve pas sa place, jusqu'à finalement découvrir le théâtre qui, selon lui, lui a sauvé la vie. Cet épisode aborde des sujets sensibles, tels que les pensées suicidaires. Si ce sujet est particulièrement sensible pour vous, n'hésitez pas à vous protéger et à peut-être sauter cet épisode des Garde-Fous. Bonne écoute!
Bonjour, je m'appelle Pascal Lifschutz, j'ai 59 ans. Je suis comédien depuis l'âge de 27 ans, on va dire. Voilà, mais je suis aussi coach, animateur, metteur en scène, formateur et professeur de théâtre et d'improvisation. Pour moi, la folie, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. Quelque chose qui, comment dire, ne pas être normal dans la normalité. Donc, ça veut dire être normal, mais pour moi, on dit souvent, tiens, par exemple, je vais dépenser des sous, j'ai fait des folies. Bon, ça veut dire que j'ai dépensé plus que je ne voulais. Donc pour moi, la folie, c'est avoir quelque chose en plus. C'est ce grain qu'on cultive pour basculer sur autre chose. On est un peu différent des autres.
Et toi, est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être fou ?
Oui, alors souvent, ça a commencé déjà tout petit. Parce qu'en fait, j'étais jaloux de ma sœur quand elle est née. On a 2 ans d'écart. Et en fait, je voulais la tuer. Déjà, j'ai commencé par l'étrangler dans son berceau. Et en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais c'était inconscient. Mais j'étais jaloux, en fait, de sa venue. Et du coup, je la martyrisais beaucoup. Mais après, c'est moi qui prenais avec mon père, puisque forcément, c'était un peu grave, quoi. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, entre guillemets, où je me sentais toujours différent et étranger de ma famille. Et en grandissant, ça ne s'est pas vraiment arrangé. À l'adolescence, je commençais à être à fond dans la religion. Donc, je lisais la Bible, c'était mon livre de chevet. Je voulais être prêtre. Et comme ma grand-mère est décédée, en fait, j'ai dit « Dieu n'existe pas, c'est fini ». Donc, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait, dans ce monde. Quand je voyais toutes les guerres, toutes les atrocités qu'il y a dans ce monde, je me suis dit « Mais s'il y a un Dieu, il va faire quelque chose, c'est pas possible ». Or, il ne fait rien. Donc, je me suis dit « j'y crois pas, j'y crois plus ». Ensuite, en grandissant... Comme à l'école, j'étais vraiment très, très mauvais élève, je ne sais pas quoi faire de ma vie, de ma peau, je me suis dit, tiens, à la 16 ans, j'ai commencé à travailler. Et c'est comme ça que dans la vie active, j'ai commencé à essayer de trouver ma place. Mais c'était très compliqué, parce que comme je complexais physiquement et mentalement, déjà avec les filles, c'était une horreur, mais en plus, il fallait que je trouve quelque chose pour que ce ne soit pas ma propre vision à ma vie, comment dire, d'accepter tel que je suis. Donc j'ai fait tout un chemin, quand mes parents ont divorcé, ça m'a aidé, et en même temps, j'étais un peu perdu, parce que je n'avais que 14 ans. Et en fait, c'est le théâtre vraiment, vraiment, qui m'a complètement libéré. C'est-à-dire qu'il m'a permis d'être moi-même, et de jouer des personnages, et de me sentir vivant et utile dans cette société, surtout à trouver ma place. Voilà. Je pense que vraiment, si je n'avais pas connu le théâtre, je serais devenu ou vraiment un clochard ou je me serais suicidé à l'âge de 20 ans. j'étais très naïf. J'étais comme un gamin. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier aussi, c'est qu'on a gardé cette âme d'enfant. C'est que pour moi, les adultes me faisaient peur, étaient trop sérieux. Et ça manquait d'humour, donc j'essayais moi de faire des blagues, de rigoler, mais ça passait pas beaucoup parce que je suis quand même issu d'une famille très 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 bourgeoise, très à l'ancienne et avec des valeurs, etc. Et moi, en fait, j'avais envie d'exploser tout ça. J'étais dans une bulle et je trouvais pas ma place, quoi. Donc j'ai l'impression d'être différent, en fait, vraiment de me sentir étranger à ma propre existence et par rapport à ma famille. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à trouver ma place en tant qu'être humain, vraiment, sur Terre, et ma mission. Et quand j'ai eu, je crois, 18 ans, j'ai compris que ma mission sur Terre, c'était d'aider les autres et de faire du bien autour de moi, en fait. J'avais envie d'être toujours dans l'empathie, de rencontrer des gens, d'échanger, de partager. Parce que j'étais souvent seul. Souvent, j'étais un peu souffre-douleur de la classe, où on m'a vraiment fait des misères quand j'étais petit. Sale roquin, tu pues, poil de carotte, serpent à lunettes. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup souffert de ça, en fait. Et donc, il a fallu le temps que j'accepte comment j'étais physiquement et mentalement. Et c'est le théâtre, ça, qui m'a permis justement de me libérer à travers le jeu et les personnages, quoi. Alors, j'ai un souvenir en tête quand j'étais à la campagne avec des amis. On allait en discothèque et je me souviens qu'il y avait une cheminée. Et je m'étais mis devant la cheminée et j'ai dit, pour moi... Cette cheminée, en fait, je ne vois pas un feu, je voyais des colombes qui s'envolaient dans le ciel. Et là, ils m'ont dit, mais Pascal, ça va pas, t'as un petit problème. Et moi, j'étais à fond dedans, en fait, je voyais des images partout. Ça m'arrivait aussi d'aller dans une cabine téléphonique, parce qu'à l'époque, ça existait les cabines téléphoniques. Et on mettait un jeton dedans et on téléphonait. Et bien sûr, moi, il n'y avait personne au bout du fil et je me faisais des délires comme ça au téléphone pendant des heures dans ma cabine. Et les gars me disaient, mais... parce qu'il y a un petit souci. Et en fait, j'avais besoin de libérer quelque chose en moi. Il fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et j'avais l'impression d'être... on me prenait pour un fou parce que je faisais des choses bizarres, quoi. Mais pour moi, c'était normal. J'essayais de parler un peu avec mes parents ou avec d'autres amis ou la famille, mais les gens ne comprenaient pas. Même, par exemple, sur un spectacle, quand j'ai voulu écrire un peu par rapport à ma vie, de ma naissance à maintenant... Des gens de ma famille se sont révoltés de me dire « Mais non, c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi. » Or que pour moi, j'ai vécu vraiment où j'avais l'impression qu'on me mettait à l'écart, déjà tout petit, dans un placard quand il y avait des invités, qu'on me trouvait vraiment moche et laid parce que je ressemblais à un petit vieux. Du coup, ça m'est gardé, et que ma sœur était blonde aux yeux bleus, donc la jolie fille, ça m'a gardé ça très très longtemps, où j'avais l'impression de ne pas être désiré, de ne pas être aimé, quoi. Je trouvais ça troublant et en même temps, je me disais, mais si j'arrive à donner du plaisir aux gens ou à m'amuser avec eux et à trouver ma place, peut-être qu'enfin, je vais trouver, entre guillemets, ma place dans cette société, dans ce monde, en fait. Mais il a fallu du temps, beaucoup de temps, ouais. J'ai eu 20 ans, quand j'ai accepté déjà le divorce de mes parents, que ma sœur, si on avait fait la paix, pour moi, j'ai compris qu'il fallait que, aussi de mon côté, je puisse essayer de construire ma vie. Donc de commencer à faire ce métier, à apprendre en tout cas ce métier, et d'essayer d'en faire quelque chose, et de trouver une liberté, et surtout de me réaliser en tant qu'homme et en tant qu'être humain, de prouver aussi que je ne suis pas plus bête qu'un autre, plus moche qu'un autre, et de me dire que y aura du boulot, ça va prendre du temps, mais au moins... Je vais faire quelque chose qui me plaît, parce que je ne trouvais pas ma voix. Donc, grâce au théâtre, ça m'a permis de trouver cette voie où j'ai su quand même rapidement, enfin, ça a mis quand même 10 ans, mais en amateur, ça ne me suffisait pas. Il fallait que j'en fasse mon métier, en fait. Même si je sais que c'était galère, etc. Et que ma famille, bien sûr, là, voulait me trouver dans le commerce, avoir un vrai métier, enfin bref. Et ça a été très compliqué, mais je me suis battu, j'ai toujours été tenace, parce que j'ai croyé au fond de moi que j'étais fait quelque part pour ce métier. De toute façon, je ne savais rien faire d'autre. Et en fait, à 20 ans, tout est possible. Donc, on se dit, fonce, tu verras bien. De toute façon, je n'avais pas le choix. Parce que je me suis dit, si je ne fais rien, j'ai fait quand même 4-5 tentatives de suicide à cette époque-là. Ma vie n'avait pas de sens. Je voulais en finir. Et en fait, c'est vraiment le jeu et le fait de rencontrer des gens qui ont cru en moi qui m'a aidé à tenir le coup, en fait. C'était une période bien précise où ma mère culpabilisait beaucoup parce qu'elle nous avait venu nous quitter. Je ne savais pas où aller chez mon père ou chez ma mère parce qu'il fallait un peu choisir entre les deux. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que J'ai été un peu chez mon père, ça se passait pas bien. J'étais un peu chez ma mère, ça se passait pas bien. J'avais nulle part où aller. C'est là que j'ai commencé en fait à essayer de me foutre en l'air. J'étais dans un balcon chez des amis et je voulais me jeter dans le vide. Et au moment où j'imaginais ma tête, l'impact du sol éclater partout de la cervelle, des glaces, ça m'a fait peur. Première chose. Deuxième chose, souvent j'étais avec des petits couteaux sur moi et je commençais à l'enfoncer. Et évidemment, au bout d'un moment, ça fait très mal. Donc par lâcheté, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Il y avait aussi des cachets où souvent je mélangeais beaucoup de cachets qui étaient très, très pas bons, on va dire. Mais c'est pareil, j'ai toujours su arrêter à temps. Parce que c'est comme si j'avais une petite voix intérieure qui me disait « Mais non, arrête tes conneries, va pas te foutre la gueule en l'air. » C'est vrai qu'à cette époque-là, je ne voyais pas d'autre issue que d'en finir, parce que cette vie-là ne me plaisait pas. Je veux dire, ça n'avait pas de sens pour moi, en fait. Je ne trouvais pas d'autre solution que de ne pas être là. J'en voulais à ma mère, j'en voulais à mon père, j'en voulais d'être né. Je ressemblais à personne, je me sentais vraiment différent. Une espèce de personnage complètement incrédule, complètement naïf, complètement en marge et qui a peur de tout, qui ne travaille pas à l'école, qui n'arrive pas. Et en plus, on m'enfonçait tout le temps, les profs sans arrêt, avec les mots. C'était toujours des choses toujours négatives. Donc au bout d'un moment, que du négatif, comme personne ne me poussait, me portait, je me suis dit, j'ai qu'une solution, c'est me foutre en l'air, quoi. Donc là, j'allais beaucoup chez les bouquinistes sur les quais et je lisais beaucoup de poésie. Et les gens disaient « Mais ah, c'est bizarre, un jeune homme de 20 ans qui s'intéresse à la poésie. » Bah oui, mais j'adorais ça. Donc j'étais plutôt romantique, etc., sentimental. Et en fait, c'est ça qui m'a sauvé, je pense, à travers la lecture, parce que le fait de penser à des personnages, à de façon de dire des mots, ça me parlait, je sais pas, ça m'aidait à me dire « Tiens, je suis pas tout seul, je me crée des personnages, des univers. » Je fais beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars aussi. Et c'est vrai que ça m'aidait aussi à construire des histoires, à développer mon imaginaire, en fait. Donc je me dis, tiens, je ne suis pas tout seul parce qu'il y a des objets, il y a des personnages qui viennent récurrents, même si ce n'est pas toujours très gai. Mais du coup, ça m'a aidé à me dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans, je ne sais pas.
Est-ce que tu te rappelles d'une œuvre ou d'un auteur en particulier qui t'a accompagné à ce moment-là?
Alors à ce moment-là, c'était Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire. Le Spleen. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance comme une chauve-souris s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme, l'espoir vaincu pleure. Et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Je me posais beaucoup de questions sur le sens de ma vie, sur qu'est-ce que je peux faire sur cette planète, quoi. Donc ça a été pour moi vraiment une question qui revenait souvent, où je me disais mais comment je vais avancer, qu'est-ce que je vais devenir en fait. Ça me faisait peur et je voyais pas d'issue. Et quand j'ai commencé ce métier et que j'ai fait 7 ans de RSA, 5 ans de RMI, donc pendant 12 ans, quand là on vous dit tu n'es plus comédien parce que tu n'es pas intermittent, tu passes pour un loser et donc tu peux pas te raccrocher à quelque chose parce que les gens te ferment les portes. Même à Pôle emploi, t'as pas de boulot, t'as pas d'argent, t'as pas d'amis, t'as pas de nana, t'as pas de, d'appart, t'as pas de... Donc tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que tu dis, mais en fait, ça peut arriver à n'importe qui. Tu peux être dans la rue et moi je me dis, je vais finir clochard, SDF et je vais mourir dans le caniveau et que voilà. C'est compliqué en fait parce que on veut prouver au monde entier qu'on, je sais pas si c'est pas du talent, mais qu'on a quelque chose à faire dans ce métier, en tout cas, qu'on a quelque chose à montrer, à dire, à faire. Et en même temps, bah, qu'est-ce que j'ai plus de quelqu'un ou moins quelqu'un? Donc ça, ça te rend fou parce qu'au bout d'un moment, on pose beaucoup de questions et on se prend la tête. Et je pense que vraiment, j'y ai échappé et qu'il y a des gens qui étaient autour de moi parce que vraiment, j'aurais pu basculer dans la folie, vraiment, et dans le suicide, en tout cas dans le... cette décrépitude de revenir à la rue, ça j'en suis persuadé. Et souvent je me dis, ah, et c'est pour ça que le spectacle que je prépare là, je veux faire un personnage vraiment qui soit entre un clown, un clochard, mais où je veux pas utiliser les mots, ou justement comme pour montrer que tout va très vite et que tout est dans l'image et tout est dans la, l'efficacité. Le parti pris que j'ai pris, c'est vraiment d'être presque immobile et d'être dans une espèce de ralenti pour montrer que ce monde va trop vite. Mais je crois que, enfin, franchement, pour faire ce métier, il faut être un peu fou, ça je crois. Mais une folie douce, une folie, je veux dire, raisonnable, on va dire, une folie qui entraîne des gens, pas une folie meurtrière, quoique, j'en parlais à mon psy, souvent j'ai envie de tuer des gens. Mais c'est vrai, en plus, je suis quelqu'un de très gentil, j'aime l'empathie, j'aime les gens, mais j'ai cette violence en moi où je sens qu'à n'importe quel moment, je peux basculer. C'est-à-dire qu'il y a cette force aussi, de cette violence, cette haine, cette rage que j'ai depuis tout petit, que je n'arrive pas à sortir. Et des fois, donc là, j'en profite, comme je suis tout seul en répétant, je peux hurler, je peux pleurer comme je veux. Il n'y a personne qui m'écoute, qui me regarde, ça c'est génial. Mais je disais à ma femme l'autre jour, il y a des fois où j'ai envie de tout péter, quoi, péter les plombs. Et c'est dur pour moi de prendre de la distance, parce qu'en fait, je me sens hypersensible et très fragile en même temps. En même temps, je sais que je suis fort, parce que pour ce métier, il faut être fort. Et en même temps, j'ai cette fragilité. Donc c'est à double... Comme je suis balance, en même temps, ça m'arrange bien, la justice. Et mon signe chinois, c'est le dragon. Donc il faut que je sois le signe de l'empereur, quand même. Je peux pas faire n'importe quoi.
Là, juste avant, tu parlais beaucoup... De cette figure de clochard, de la rue, qui fait écho aussi à un épisode que tu as vécu avec le théâtre, il me semble. Mmh. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ça?
Oui, tout à fait. En fait, c'était lors d'une création à Créteil, justement, avec des compagnies amateurs. J'étais le seul professionnel. Bien sûr, il n'y avait pas d'argent, on n'était pas payé. Ça s'appelait Les Anges Abandonnés. Alors, en fait, mon personnage, c'était un joueur de cartes. C'était un peu roublard, il essayait à chaque fois d'embrouiller ses collègues et pour sortir un peu de sous pour aller faire des courses. Donc on mangeait, on buvait sur scène et le metteur en scène nous a travaillé sur la fatigue. Donc en fait, quand on était épuisé, on lâchait tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on voulait conduire avec la tête, ben ça, il n'y avait plus rien. Donc c'était des corps et en même temps enfin, des énergies différentes pour qu'il y ait des histoires avec ces personnages qui se rencontrent et quelque chose à dire. C'était pas très gai, c'était très poétique, mais c'était très violent. Et c'est vrai que avec les odeurs, avec le fait de pas se laver ou le maquillage, on a essayé plusieurs choses. Je me suis un peu trop pris d'ailleurs parce que j'étais un peu trop à cette époque-là, j'étais à fond dans l'acteur studio et on m'avait dit ouais, fais attention, c'est dangereux. Et en fait, ça a pas loupé parce que je me suis surpris chez moi pendant une semaine à manger par terre, crade, pas m'habiller, pas me laver, et manger à même le sol. Et là, heureusement, un ami qui était là et qui se partageait l'appartement m'a dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et en fait, je n'arrivais plus à faire la distinction entre ce que je jouais au théâtre et ma réalité de la vie, que j'avais pas de boulot et pas d'argent, pas de fric, pas... Et j'étais en train de me laisser complètement aller. Et donc, ça m'a fait réagir et là, ça m'a fait peur. Donc, ça m'a appris justement jusqu'où on pouvait aller et ne pas aller. Je pense que la frontière est très mince. Mais qu'il faut être conscient que c'est du jeu et un personnage, et qu'à force de s'identifier, on peut vite basculer dans quelque chose de fou, justement, je pense, qui peut avoir des répercussions terribles, quoi. La sensation, c'est que vraiment, comme on est épuisé, c'est de laisser aller, le lâcher prise, vraiment. C'est-à-dire qu'on n'en pense plus. On est des êtres humains, mais à l'état presque animal, vraiment. Parce qu'à un moment, il y avait une scène, justement, où il fallait que je baisse mon pantalon et monte mon sexe, justement, mais que j'allais... faire mes besoins, on va dire. Et je sais que les spectateurs étaient très réagis de manière très violente. Et ça m'a surpris parce que moi, j'étais dans mon truc sans y penser. J'étais pas en présentation. Je faisais ça normalement, naturellement, je puis dire. Et en fait, pour eux, c'était comme une atteinte. C'était violent parce qu'il n'y a pas la distance. Et du coup, ça m'a posé question. Et je me suis dit, jusqu'où on peut aller justement par le jeu, naturaliste entre guillemets, quelque chose de très quotidien, puisque c'est très réel. Et en même temps, moi, ça m'a permis d'aller au fond des choses. C'est-à-dire que jamais j'avais été aussi profondément à travailler un rôle, un personnage. Donc ça, j'ai appris beaucoup et je me sentais bien, même si c'était violent et triste. C'était une sacrée expérience pour moi, ouais. Si on ne se connaît pas bien soi-même, on peut vite basculer. Un exemple tout simple, j'ai un jour joué dans un court-métrage avec un acteur anglais, et au moment d'une scène où je faisais une espèce de monstre, on va dire, il devait m'étrangler avec un fil de nylon par derrière, et bien sûr faire semblant. Et lui, il serrait pour de vrai, il serre ma pomme d'Adam, et du coup je sens que ça serre, et je commence à avoir les yeux qui pleurent, et là vraiment à étouffer, à avoir peur. Et donc d'un seul coup, j'ai éclaté, je lui dis « mais tu te rends pas compte, t'es fou quoi ?» T'es en train de m'étrangler pendant. Oh, excuse-moi, Pascal, je pense pas rendu compte. Voilà. Des exemples concrets où l'équipe ne disait rien parce que c'était tellement fort. À un moment donné, j'ai pété un câble parce que ça reste du jeu. Il faut que ça reste un plaisir. Ils sont tous maîtrisés. Et il y a beaucoup de gens qui maîtrisent pas leur corps, qui maîtrisent pas les émotions. J'en parlais avec un cascadeur qui me disait que des fois, dans les combats, les gens, ils font n'importe quoi. S'ils répètent pas avec des lames, etc., et pour de vrai, les coups, où ça doit être prémédité, mais c'est surtout bien répété, bah, ils peuvent avoir des blessés, voire même des morts, des accidents. Ça s'apprend aussi, quoi. Et il y a des gens qui ne se maîtrisent pas. Et en fait, il y a des gens qui vont jusqu'au bout. Comme j'ai vu des gens, par exemple, pour des scènes où ils devaient faire comme s'ils étaient un peu ivres, bah, ils picolaient pour de vrai pour voir. Et du coup, le scénario n'avait plus rien à voir. Enfin, donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et moi, ça m'énerve quand les gens ne maîtrisent pas ou cassent tout pour montrer qu'ils peuvent être violents et tout casser un canapé. Quel intérêt ? Enfin, moi, je pense qu'on a vraiment mi-ange, mi-démon. C'est-à-dire on est à la fois super gentil, et souriant et empathique et agréable. Et en même temps, on peut être vraiment très, très violent. Et personne n'est à l'abri de péter un câble, péter les plombs. C'est pour ça que notre métier, au moins avec l'art, c'est de maîtriser, entre guillemets, à travers un personnage, un jeu ou au cinéma, de « ok, on peut aller au bout des choses ». Mais c'est vrai que c'est troublant. Quand Jacques Weber a joué Cyrano de Bergerac, je ne sais pas, 700 fois, qu'il a écrit ce bouquin, il a dit, mais à un moment donné, je dormais comme Cyrano, je mangeais comme Cyrano, je vivais. Il n'arrivait plus à s'en défaire. Donc ça prouve bien quand même que se passe quelque chose dans la névrose, dans le psychodrame, ou je ne sais pas, il y a quelque chose de qui fait peur, ouais. Et si on n'en a pas conscience, bah, effectivement, on peut basculer de l'autre côté, je pense.
Toi, aujourd'hui, ça t'arrive encore d'avoir peur de basculer de l'autre côté, comme tu dis ?
Non, parce que si je dois refaire un spectacle sur des personnages vraiment fin de vie, en fin de parcours, des choses très dures. Je me connais suffisamment et surtout j'ai appris à me maîtriser et je sais que jusqu'où je peux aller ou ne pas aller, quoi. Je peux me faire peur, mais je sais m'arrêter. C'est-à-dire, je saurais, ça je peux le faire, ça je peux pas le faire. Parce que je sais qu'après, on peut basculer dans autre chose et c'est moins intéressant. Il faut que ça reste un travail, un plaisir et du jeu. Aussi, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants quand j'étais plus jeune. Et le fait de travailler avec eux et pour eux au théâtre, comme ils avaient cette liberté et cette facilité, je me suis dit, bah, après tout, pourquoi en tant qu'adulte, on perd des choses qu'on a eues tout petit et qu'on a en nous, en fait. L'être humain est bien fait. Mais après, on se met des barrières, donc on se pose des questions. Et le fait de les observer tout le temps et de jouer avec eux et pour eux, je me suis aperçu que, bah, en fait, j'étais capable d'être un enfant de 5 ans, sauf que je suis un adulte. Mais du coup, ça m'a permis de me libérer, de faire des choses beaucoup plus ludiques. Oui, de s'amuser comme un enfant, en fait. En conduisant le travail d'adulte. Mais je veux dire, c'est sérieux, mais on s'amuse. Je sais pas comment dire, je sais pas si c'est clair. C'est pas dire qu'on bêtifie ou quoi que ce soit. Mais on se met au niveau de l'enfant, et l'enfant se met à notre niveau. Mais nous, en tant que comédiens, on doit jouer pour... On découvre la situation, on découvre le personnage, pour qu'on puisse aller ensemble ailleurs, quoi. Trouver des histoires, jouer des personnages, des situations. et de s'amuser, prendre du plaisir sans se prendre au sérieux, sans se prendre la tête. Et aussi, quelque part, pour changer du quotidien, quoi, pour s'évader. Voilà. Pour moi, ça doit être un moment d'évasion, le jeu. On dit bien, c'est jouer. Donc jouer, qu'est-ce que c'est? Comme un enfant, on joue, quoi. Et ça doit être que ça. Pour moi, on est tous un petit peu fous. De toute façon, pour vivre cette vie-là, dans lequel on, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, donc qu'est-ce qui fait qu'on pète pas les plombs? Parce que justement, ce côté humain est peut-être un peu plus cartésien et les pieds sur terre. Même s'il faut rêver, je pense que ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est de bien comprendre ce qui se passe, de bien se connaître, et surtout qu'on n'a pas fini d'apprendre avec l'autre et de rencontrer l'autre. Voilà. Que si les gens restent trop sur eux ou qu'ils ne communiquent pas, c'est pas bien, c'est pas bon. Il faut s'ouvrir aux autres. Et moi, j'ai souffert de ça étant petit parce que justement, je n'arrivais pas à communiquer. Et je me dis que si on communique bien et que les gens sont à l'écoute et qu'on prend le temps de se rencontrer, on devient plus riche de ça. Et surtout, on n'est pas tout seul. On a besoin des autres. Ça, c'est important. Et de l'entraide, etc. Et pour s'en sortir, je pense que vraiment, c'est la seule solution d'être encore plus humain que l'humain, quoi. La musique qui m'a vraiment marqué quand j'étais un peu plus jeune, quand j'ai vu la liste de Schindler, en fait, c'est la musique vraiment de John Williams, au moment où la scène est très précise, c'est quand il suit les Juifs et qu'il tombe du camion en pleurant et il dit « mais j'aurais pu sauver plein de vies, et que je n'ai pas vendu ma bague, j'ai pas vendu ma voiture, j'ai pas vendu... » Il a sauvé de cette liste tous ces Juifs du camp de la mort, mais il aurait pu faire beaucoup plus s'il n'avait pas pensé à lui. Et cette scène-là, avec cette musique-là, à ce moment-là, au violon, c'est quelque chose pour moi qui est waouh, c'est, y a de quoi péter un câble et que c'est triste. Et en même temps, quelle humanité, quoi. Voilà, c'est beau parce que du coup, il aurait pu faire beaucoup plus, mais il a déjà sauvé déjà beaucoup de gens. Cette scène-là m'a marqué avec cette musique. Et là, souvent en boucle, c'est le Monsieur Madame, là, de Loïc Noté. J'adore cette chanson parce que justement, il y a cette côté un peu révolte et en même temps tristesse et de folie et en même temps quelque chose de touchant. Voilà. Et en tout cas, qui me parle. D'ailleurs, ça me fait penser que, grâce à ma femme, parce que c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, elle m'a donné des cours, elle va me payer des cours de chant. Donc je vais chanter toute l'année, au moins une fois par semaine. Et ça, je suis content. Et je pense que je travaillerai cette chanson-là de Loïc Noté, Monsieur Madame.
Bonsoir, monsieur, madame. Aujourd'hui, je te dis tout. Je préfère parler en tu, car je n'aime pas le vous. Je trouve que ça vieillit. Et moi, je veux rester petit. Un gamin pour la vie, sans mouchoir ni cri. Alors vas-y, je te dis tout sur le drame que je vis. Au quotidien, en enfer, voilà où je suis. Je voudrais m'en aller, m'évader loin de tout. De ce monde de fou et partir je ne sais où. Ce monde m'étrangle, m'écrase et me brûle. Me détruit, m'empêche de vivre dans ma bulle. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste m'enfuir. Laisse-moi courir loin, laissant ce monde à bannir. Si Dieu dit que le suicide est un péché, alors qu'il dise comment je pars sans lui faire de tort. Qui me transforme en ce que les médecins appellent fou. Et peut-être qu'ainsi j'y verrai dans le flou. Alors cher monsieur T, aide-moi, aime-moi, moi je n'y arrive pas. Dans ce monde que je vois, dans ce monde de lutte, où l'homme n'est qu'une brute, où l'amour n'est plus rien que querelle et dispute. Je voudrais m'écrire un monde, une planète, rien qu'à moi. Une planète sur laquelle je me sentirais moi. Un renouveau s'enchaîne, dépourvu de haine. Une planète sur laquelle tu me donnerais des ailes. Un nouvel univers ne serait qu'un mythe, qu'une putain de légende urbaine. Alors laisse-moi partir, dis-moi comment m'enfuir à cette question posée. Laisse-moi, je veux tout quitter. La seule chose que j'aime en ta création, l'âme, c'est qu'il peut rêver chaque nuit comme les mômes. Qu'on soit vieux, jeune, vilain, gentil ou encore moche, on a le droit de rêver.